pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. On commence comme toujours par la première phrase d'un roman culte. J'ai choisi un livre un peu particulier aujourd'hui, Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss. Ce n'est pas un roman, c'est un livre d'ethnologue, mais il est incroyablement bien écrit et son incipit, sa première phrase, est restée célèbre. La voici. Je hais les voyages et les explorateurs. Étonnant de la part de quelqu'un qui passe son temps à voyager et à explorer, mais il s'explique juste après. Il oppose en fait ces voyages de scientifiques qui partent à la rencontre de tribus, de sociétés en Amérique du Sud et les voyages de ceux qui voyagent pour voyager. C'est un livre passionnant, c'est à lire. Des livres, nous en découvrirons beaucoup d'autres chez le philosophe Fabrice Midal. Il nous a ouvert les portes de sa bibliothèque. L'équipe des libraires de l'émission se tient prête pour de bonnes idées de lecture et nous terminerons avec la chronique jeunesse de Victor Dolande. Mais d'abord, c'est l'invité et laquelle, vous allez voir. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
C'était il y a un mois, exceptionnellement, deux Nobel de littérature étaient décernés cette année, celui de 2019 à Peter Handke et celui de 2018 pour Olga Tokarczuk. Elle est polonaise, elle est l'auteure la plus lue là-bas. La plupart de ses livres ont été traduits en français, bien sûr, les livres de Jacob notamment, son dernier aux éditions Noir sur Blanc. C'est une fresque gigantesque, un bon millier de pages, l'histoire de Jacob Frank, un juif converti à l'islam puis au christianisme au XVIIIe siècle, un personnage qui a vraiment existé et dont Olga Tokarczuk s'empare. Elle nous raconte son destin. Il se prenait pour le Messie, notamment parce qu'il a fait beaucoup plus. On traverse une époque, des pays d'Europe, des langues dans ce livre fleuve. Il lui a fallu 8 ans de travail pour l'écrire. Elle a publié Les Pérégrins aussi, ou Sur les ossements des morts. Elle s'intéresse à tous les sujets, y compris à la politique. On en parlera aussi, puisqu'elle est avec nous aujourd'hui. On n'a pas peur sur Europe 1, on traduit du polonais. Bonjour Olga Tokarczuk.
Bonjour.
Je vais commencer avec une question très basique, mais vraiment ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est quoi la première réaction quand on est récompensé par le prix Nobel de littérature? La réaction immédiate, physique?
Niedowierzanie.
Alors l'incrédulité sans doute.
Powtarzałam kilka razy do telefonu. Nie, nie.
Alors j'ai répété à plusieurs reprises. Non, non, c'est impossible.
A potem radość, taka wielka radość, która
ensuite, c'est une joie énorme.
Że moje życie się zmieni bardzo.
Et j'ai l'impression que ma vie va changer maintenant.
Że będę dużo bardziej czytana, dużo chętniej.
Sans doute, on va beaucoup plus lire mes livres.
I bardzo możliwe, że będę miała więcej obowiązków.
Et peut-être aussi que j'aurai beaucoup plus d'obligations.
Votre vie va changer, mais vous aviez déjà un succès gigantesque.
To prawda, że miałam szczęście do czytelników francuskich.
Alors oui, c'est vrai, moje j'ai beaucoup de chance. Je suis lu en France, mes livres sont présents en France depuis
zwłaszcza
plusieurs années.
Książka,
surtout
Jakubowe,
le dernier livre, Les livres de Jacob, a été publié ici en France l'année dernière. Et effectivement, les lecteurs et les critiques ont beaucoup parlé de ce livre.
L'Académie qui vous a décerné le prix Nobel a souligné votre imagination narrative, je cite, et votre passion encyclopédique. Alors, imagination narrative, on voit bien, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire et récompenser dans passion encyclopédique?
Myślę, że uważny czytelnik zobaczy w moich książkach.
Alors, je pense qu'un lecteur attentif peut voir dans mes livres à quel point je me prépare avant de me mettre à écrire. Même si cela n'est pas reflété directement dans le texte, la préparation est vraiment fondamentale. Pour les pérégrins, par exemple, j'ai passé beaucoup de temps à étudier l'anatomie, puisque c'est l'un des sujets qui est abordé dans ce livre. Mais c'est encore plus le cas, bien évidemment, pour les livres de Jacob. Cela m'a pris 8 ans à peu près d'écrire ce livre. Et la moitié, justement, c'est la documentation, les préparations, les recherches. J'ai essayé d'arriver jusqu'aux informations oubliées aujourd'hui. J'ai aussi beaucoup voyagé. J'ai dû voyager pour pouvoir décrire cette époque très exotique aujourd'hui.
C'est la question que j'allais vous poser, en particulier à cause des pérégrins, effectivement, où le corps humain est exploré dans les détails. Comment vous avez l'idée de faire ce livre si vous n'avez pas les connaissances préalables? Est-ce que les connaissances que vous accumulez au fil de votre documentation changent l'idée de départ du livre?
Zwykle pomysły, które towarzyszą początkowi pisania książki, są bardzo intuicyjne.
En fait, c'est l'intuition qui nous dicte les premières idées.
W moim przypadku było to tak, że miałam,
dans mon cas,
ponieważ
c'est
bardzo dużo sama
suivante.
Podróżowałam.
J'ai beaucoup voyagé moi-même et j'ai essayé de rendre cette expérience en écrivant un roman consacré au voyage. Pendant longtemps, j'ai cherché la bonne forme pour le faire.
Alors, et
bien évidemment, il y a des formes classiques telles que le reportage ou alors le journal de voyage. Mais aucune de ces formes ne m'a paru suffisamment moderne. Parce qu'aujourd'hui, on voyage d'une manière bien particulière. Aujourd'hui, on voyage par saut. On arrive à un aéroport et ensuite, on saute jusqu'à un autre endroit du monde, dans un contexte complètement différent.
Zastanawiałam się też dlaczego właściwie co to jest to co nas
Donc je me suis posé la question suivante. Qu'est-ce qui nous motive pour nous déplacer, pour nous voyager?
Myślę, że ta książka
pour nous fatiguer au cours de ce voyage. Je pense que ce livre est devenu une sorte de monographie de ce phénomène de déplacement.
I kiedy zastanawiałam się właściwie, czy istnieje coś
Je me suis posé la question de savoir s'il existait quelque chose de stable, de permanent dans ce monde labile, changeant.
Pomyślałam o ludzkim ciele,
które Et je me suis dit que c'était le corps humain. Le corps humain, c'est un vecteur très fragile qui nous permet de voyager.
Ludzkie ciało, które jest śmiertelne.
Le corps humain est mortel.
I być może podróżujemy po to,
et peut-être
żeby
que nous voyageons justement pour avoir l'impression
świecie,
que notre existence dans le monde est plus forte, qu'à travers nos voyages, nous accédons en quelque sorte à l'immortalité.
W każdym razie ten temat anatomii i wejścia
Donc ce sujet d'anatomie, ce voyage à l'intérieur du corps humain, à l'intérieur de ce vecteur de voyage, c'est une idée qui m'est apparue assez tôt. Et puisque je savais très peu de choses là-dessus, et je considère que nous savons toujours très peu sur notre corps, nous savons beaucoup plus de choses sur le cosmos, sur l'espace, que sur la manière de fonctionner de notre rein ou de notre foie. Et c'est donc pour cette raison-là que je me suis rendue dans la capitale de l'anatomie, à Amsterdam, parce que c'est là-bas que l'anatomie est née. Et donc, pendant un moment, j'ai étudié l'histoire de l'anatomie là-bas, effectivement.
J'ai l'impression que vous êtes un peu une obsessionnelle, non? C'est-à-dire que vous aimez tout, vous êtes curieuse de tout, puis tout d'un coup, il y a un domaine qui vous intéresse un peu plus, et alors là, vous le creusez pendant des années, et vous faites des études même en rapport avec ce domaine-là. Je me trompe?
O, to prawda. Myślę, że w ogóle obsesja to jest
vous avez tout à fait raison.
Świetne zjawisko dla pisarza,
je pense qu'effectivement,
pisarki,
l'obsession, c'est quelque chose d'important
tylko obsesja
dans l'écriture.
Jest w stanie utrzymać nas w tym
je pense
pisania.
Que l'obsession, c'est la seule chose qui nous permet de continuer à écrire.
W gruncie rzeczy to jest bardzo trudny i fizycznie ciężki
zawód. C'est quelque chose de très difficile. C'est un métier exigeant physiquement aussi, le métier d'écrivain. On passe des heures entières assis à un bureau, à écrire, à réfléchir.
Poza tym zawsze zostajemy, jesteśmy samotni.
Et ensuite, c'est un métier très solitaire.
Chyba powinniśmy mieć jakieś specjalne ubezpieczenie.
Je pense qu'il faudrait une assurance santé spéciale pour les écrivains.
Eh bien justement, reposez-vous un peu, Olga Tokarczuk. On fait une pause et on revient dans un instant. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voie est libre.
Retour dans La Voix et Livre qui accueille aujourd'hui le prix Nobel de littérature. Mais oui, Olga Tokarczuk, toujours avec nous. On a parlé tout à l'heure de votre sens du détail et de l'incroyable documentation dont vous vous servez pour chacun de vos livres. Les bases de vos romans sont solides, donc, mais il y a aussi toujours une mystique chez vous, un côté irrationnel, comme si vous ne vouliez pas vous contenter du rationnel pur. La littérature n'est pas faite pour coller totalement à 100% avec la réalité brute. Sinon, on n'est pas dans le roman, on est dans autre chose.
Alors, il faudrait se poser la question de ce qu'est la réalité. La réalité, c'est tout ce dont on fait l'expérience. Ces besoins de transcendance, de spiritualité, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la condition humaine, tout comme l'instinct sexuel ou l'instinct de la faim. C'est tout aussi important. L'homme veut toujours dépasser cette réalité, veut regarder ailleurs. Il y a une belle image que vous connaissez sans doute tous. Il s'agit de quelqu'un qui marche et qui arrive à la frontière du monde et qui passe sa tête vers l'univers pour sortir de ce monde. Je pense que cette image, c'est quelque chose qui correspond très bien à mes livres.
Votre mère était professeure de littérature, mais vous, vous avez suivi des études de psychologie, vous avez même exercé en tant que psychothérapeute. Au fond, est-ce que les deux matières, psychologie et littérature, ne sont pas liées?
Oui, effectivement, je pense qu'il y a des liens très forts entre la psychologie et la littérature. Mais lorsqu'on étudie la littérature, on étudie le résultat d'analyse, d'interprétation. Alors que si on étudie la psychologie, la psychothérapie, on étudie une littérature potentielle, ce qui pourrait être écrit. Ensuite, lorsqu'on étudie des textes littéraires, lorsqu'on étudie les lettres, on étudie la langue de quelqu'un d'autre. Et pour moi, ce qui a toujours été important, c'est de trouver mon propre chemin dans ce monde littéraire. Donc c'est pour cela que consciemment, je n'ai pas décidé d'étudier les lettres. Et j'ai beaucoup appris, justement, grâce à la psychologie, grâce à la psychothérapie.
Mais un jour, du jour au lendemain, je crois d'ailleurs, vous avez arrêté la psychologie pour vous consacrer à la littérature. Comment ça s'est passé?
Alors, je pense que c'était un grand risque que j'ai pris à l'époque. Je me sentais fatiguée de mon travail de psychothérapeute. Peut-être que c'était une sorte de burn-out. J'ai décidé de prendre une année sabbatique pour me consacrer à mon premier livre. Et bien évidemment, je savais qu'il y avait beaucoup de personnes comme moi, qu'il y avait peut-être des milliers ou des centaines de milliers de personnes qui essayent d'écrire. Et que le succès dans la littérature, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Mais je voulais bien prendre ce risque. Je me suis dit que si jamais je n'allais pas trouver de lecteur, je pourrais toujours revenir au travail de psychologue. Mais mon premier roman a été très bien reçu, a été récompensé. Et j'ai donc décidé de changer de métier.
Le prix Nobel de littérature, c'est une institution à l'écho mondial. C'est aussi un outil assez pratique pour servir ses engagements. Et pour vous, je pense au féminisme, par exemple. Où est-ce que vous considérez qu'il faut faire la part des choses entre la littérature et l'engagement politique? Est-ce que ça peut être un levier, y compris pour vos engagements politiques? Ou est-ce que vous essayez de séparer les deux d'une certaine manière?
Alors, je ne me considère pas comme une personne engagée politiquement. Je pense plutôt que je suis quelqu'un qui réfléchit à la politique. Et bien évidemment, cela se voit reflété dans mes livres.
Alors,
c'est peut-être dans ce sens-là que mes livres deviennent politiques.
Et
je pense qu'il faudrait une séparation entre la politique et la littérature.
Vous n'êtes pas engagé directement politiquement, en tout cas vous n'étalez pas cet engagement politique, mais vous avez des rapports durs avec le gouvernement polonais, pas avec la Pologne, mais avec le gouvernement polonais, c'est tendu quoi.
Tak, ale moje książki stają się polityczne przez to, że
oui, la situation est tendue, mais mes livres deviennent politiques, puisque j'exprime par ces livres mes propres opinions sur le monde, parfois ce sont des positions fortes,
ale nie są to jakieś radykalne opinie. Jestem
mais ce ne sont pas des opinions radicales. Je suis féministe, oui. Et je pense que si je vivais en France, j'étais juste l'une Natomiast parmi de nombreuses personnes qui ont cette approche-là. Alors que dans mon pays, il y a cette narration assez anachronique, patriarcale, nationaliste. Et donc, dans ce contexte, sur cette toile de fond, effectivement, j'apparais comme quelqu'un de radical. Il en va de même pour ce qui est des droits des animaux. C'est quelque chose de très important pour moi. Et je me rends compte qu'en écrivant mes livres, qu'en arrivant avec mes livres aux nombreux lecteurs, je peux poser des questions d'ordre moral ou éthique auxquelles il faut répondre dans le monde d'aujourd'hui.
Comment on écrit quand on a eu le prix Nobel et qu'on se met à sa table de travail? Est-ce qu'on se dit, oh là là, maintenant je suis prix Nobel, comment on fait?
Alors, je pense que cela ne me posera pas de problème puisque j'ai un projet qui est déjà en cours et je voudrais bien avoir le temps pour y revenir.
Et ensuite,
je traite mon écriture comme faisant partie de ma vie, tout simplement. Je n'imagine même pas de faire quelque chose d'autre. Je ne sais faire rien d'autre.
Donc l'écriture
fait vraiment partie intégrante de mon existence. Donc cela ne me posera pas problème d'écrire à nouveau, de terminer mes projets en cours. Ce sera peut-être même un soulagement pour moi après cette période de 2 mois qui a été bouleversante pour ma vie.
Et tant mieux pour nous, ne changez rien. Merci beaucoup. Olga Tokarczuk.
Merci beaucoup.
Et merci aussi à Anna Juchak, votre interprète. Ça me fascine, moi, cette capacité à traduire en simultané. Et merci beaucoup. Dans un instant, chers auditeurs, c'est à vous de me dire quel est votre grand roman. Aujourd'hui, c'est Nadège qui se prête au jeu. Elle nous a contactés pour nous parler d'un grand roman de science-fiction, Dune, de Frank Herbert. À tout de suite.
La voix est libre. Nicolas Carreau.
Chaque semaine, je vous demande quel est le livre au centre de votre bibliothèque, celui qui vous a changé, que vous offrez à tout le monde, bref, votre livre préféré. Et aujourd'hui, c'est Nadège de Paris qui nous appelle pour nous parler de Dune, le roman culte de Frank Herbert, publié en 1965. Je crois bien que c'est le roman de science-fiction le plus vendu au monde. D'ailleurs, bonjour Nadège.
Bonjour Nicolas.
Eh bien, dites donc, Dune de Frank Herbert, c'est pas banal ça, parce que c'est un roman culte, mais quand même assez complexe. Est-ce que vous pouvez essayer de nous résumer l'histoire, en tout cas nous donner le début, le contexte?
Oh, bah, résumer Dune, c'est véritablement un challenge. Parce que c'est une épopée, c'est pas une histoire, c'est ce qu'on appellerait plutôt une geste. Donc c'est vraiment toute l'histoire d'un monde, d'un univers, d'une famille. Pour quand même le faire très très court, c'est au démarrage l'histoire d'un jeune homme dont la famille va partir sur une autre planète, puisqu'on est dans un roman de science-fiction, voilà. Vraiment de type SF, hardcore SF, donc avec des planètes, des vaisseaux spatiaux, etc. Et ce jeune homme va devoir changer de planète pour des raisons très très politiques, et il était dans une très belle planète, très verte, avec des océans, et il se retrouve sur une planète désertique hostile, et c'est un jeune homme de 16 ans, et ça va un peu bouleverser sa vie, et après il va se passer beaucoup beaucoup de choses.
Comment vous l'avez découvert, ce livre ?
Alors, c'est un petit peu particulier parce que moi, je suis tombée dans la science-fiction quand j'étais toute petite, dans ma famille, tout le monde lisait de la SF, mon oncle, mes tantes, ma mère, et puis un jour, mon oncle arrive avec des étoiles dans les yeux, avec un livre, avec une couverture argentée. C'était la collection Ailleurs et Demain, et c'était écrit Dune, et puis il me dit « Oh, regarde, regarde, j'étais vraiment petite. C'est un bouquin de science-fiction absolument fabuleux, et puis moi j'étais trop petite pour le lire, et ça me faisait rêver. » Puis après le film est sorti, ça m'a encore plus intriguée, mais j'ai attendu longtemps pour le lire, pour être mûre, pour ne pas qu'il me fasse peur, pour pas qu'il soit compliqué, c'était toutes les idées que j'avais. Et donc adolescente, je l'ai lu, je l'ai acheté dans la même collection, et je me suis précipitée, c'était merveilleux, et après je l'ai relu, j'ai lu tous les Dunes, parce qu'il y en a beaucoup, et je l'ai lu, relu, relu, et c'est devenu mon livre culte.
Mais c'est vrai que c'est pas évident, Bernard Werber m'avait expliqué un jour que c'était son livre préféré, que c'est un ami qui lui avait conseillé, il avait donc tenté de le lire une fois, puis il n'avait pas réussi. Il avait lâché au bout de quelques dizaines de pages, puis deux fois, parce que son ami lui avait dit d'insister, puis trois fois, et enfin, là, il est allé jusqu'au bout et c'est devenu obsessionnel chez lui, Dune, c'est devenu un univers entier qui s'est ouvert à lui. Et ça vous a fait la même chose, vous, quand vous avez commencé à le lire? Il a fallu insister un peu, faire un petit effort pour rentrer dedans?
En fait, faire des efforts pour rentrer dans des livres, ça m'est arrivé souvent, et souvent en science-fiction, mais pas avec celui-là. Après, il est vrai que... Bon, je l'avais lu en vacances, je m'en souviens très 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 bien, j'étais dans le sud de la France, donc peut-être que j'étais à un moment plus apaisée, mais il est complexe et il est difficile à lire dans le sens où il est très écrit, déjà, l'anglais est très très bon, le français, la traduction est très bonne, donc on est un petit peu dans de la littérature, il est compliqué et il est structuré, donc c'est pour ça qu'il est difficile de rentrer dedans, et il est tellement ensuite entêtant que, bon, j'étais adolescente quand je l'ai lu la première fois, et vous avez des petites phrases d'introduction comme des citations de livres à chaque début de paragraphe, et à un moment donné, j'ai même douté, c'est-à-dire que je lisais ces citations et je me disais, mais c'est des vraies citations de véritables auteurs où il a tout inventé. Vous voyez, il est arrivé à un degré de création d'un monde et de structure littéraire tellement fort qu'à un moment donné, on ne sait plus vraiment faire la différence entre le monde qu'il a créé et la réalité. Et c'est peut-être ça aussi qui décontenance et qui fait que d'un premier abord, quand on n'a pas trop l'habitude soit de beaucoup lire, soit de lire de la SF, il n'est pas facile. Mais ensuite, c'est quand même un vrai roman qui vous emporte et qui est c'est un grand monument de la littérature, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'épouvantablement compliqué.
Et qu'est-ce qui fait, selon vous, que ce soit un grand monument de la littérature, que ce soit même considéré comme le grand roman de science-fiction? On en a eu beaucoup, puis il y en a beaucoup des classiques des romans de science-fiction, mais pourquoi Dune revient sans arrêt? Pourquoi Dune est si important?
Mais parce que, alors il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction qui déjà écrivent très bien, alors parce que ça c'est quelque chose qui est important, c'est de savoir que c'est pas un sous-genre hein, la science-fiction,
ça
peut être vraiment de la littérature à part entière, et là Frank Herbert pour moi c'est un peu le Proust de la science-fiction, donc déjà c'est excessivement bien écrit, et après je crois que c'est quand même l'un des rares auteurs qui a vraiment créé un univers d'une complexité incroyable qui en plus touche profondément à l'humain. C'est-à-dire que lui, il a fait un travail de prospective complètement fou, mais en plus, il est allé jusqu'au bout du processus. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a très très peur des IA, par exemple. Ça, c'est complètement au cœur de Dune, quelque part, dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'il a été montré que l'humain dépassé par la cybernétique, ça ne marchait pas, et il est revenu à l'être humain, à ses capacités, à ce qu'il a à l'intérieur. Et en fait, Dune, c'est un roman de science-fiction, mais c'est aussi un roman profondément humaniste. Et je pense que c'est ça qui touche les gens. C'est-à-dire qu'il vous emmène dans un autre monde fou, fabuleux, extraordinaire, avec une invention mais de complètement disproportionnée. Enfin, les vers de Dune, il fallait quand même y aller, il fallait vraiment avoir l'idée. Mais après, il vous renvoie à ce qu'est l'humanité profondément. C'est un roman d'amour, c'est un roman d'humanité. Je pense que c'est ça qui touche les gens.
Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, vous donnez vraiment envie de se plonger dans Dune. Faites l'effort, lisez-le, prenez le temps. Ça fait partie de ces livres qui peuvent changer une vie. Merci beaucoup, Nadège.
Je vous en prie.
Et à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.
Europe 1.
Et si vous aussi, vous voulez partager le livre au centre de votre bibliothèque, celui que vous avez lu plusieurs fois, qui vous a marqué, qui vous a changé, que vous offrez, écrivez-nous. Il existe plusieurs moyens. Envoyez-nous un mail, par exemple, avec votre numéro de téléphone et le livre dont vous voulez parler à l'adresse livre au singulier @europe1.fr. Sinon, un message sur la page de l'émission ou vous me contactez directement via Twitter. Nous attendons vos bonnes idées. Dans un instant, encore des livres, nous partons visiter la bibliothèque du philosophe Fabrice Midal.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Et il est temps de quitter un peu ce studio. Fabrice Midal est philosophe, fondateur de l'école occidentale de méditation. Il vient de publier d'ailleurs un nouveau livre, Méditer, le bonheur d'être présent, chez Philippe Ray. Nous en avons profité pour nous rendre chez lui, visiter sa bibliothèque et chercher un peu de sagesse dans ce monde de brut. Bonjour Fabrice Midal.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. Je m'en doutais un peu, mais tous les murs sont jaunes. C'est un peu votre marque de fabrique, ça. Vous avez votre veste jaune, toujours, les lunettes jaunes. Qu'est-ce que vous avez avec cette couleur ?
J'adore.
Qui n'est pas la couleur la plus... celle qui a la meilleure réputation.
Ben, je n'ai aucune idée pourquoi, mais j'adore. Ça me met de bonne humeur. La vraie raison, c'est que je ne sais pas. Et pourquoi j'aime le jaune ? Parce que je l'aime sans savoir.
Alors, on n'est pas très loin de la Défense, plutôt, en proche banlieue de Paris. Au 43e étage d'une tour, c'est pas le quartier le plus glamour, mais en revanche, la vue, c'est complètement dingue. Vous avez des baies vitrées qui donnent sur tout Paris. On voit la Tour Eiffel au loin, le Sacré-Cœur, on voit tout. C'est ça ce qui vous a plu ici ? C'est pour ça que vous êtes là ?
Oui, les gens sont souvent surpris que quelqu'un qui s'engage dans la pratique de la méditation habite dans une tour au cœur de la ville. Mais moi, je trouve que c'est important d'être au cœur des choses, au cœur de la ville. Je trouve qu'on sent, on sent l'énergie de Paris. Et l'autre aspect, c'est qu'on voit le ciel. Et ça, c'est une expérience pour moi, chaque jour commotionnant, de voir autrement le ciel, qui est toujours différent. Aujourd'hui, il est blanc, gris, avec une sorte de densité, et ça bouge tout le temps. Et je trouve ça extraordinairement vivifiant.
Alors, je le disais, tout est jaune, y compris les radiateurs, les stores, les bibliothèques. Et effectivement, je dis que les murs sont jaunes, mais on a du mal à la distinguer, puisque là, par exemple, on est dans une des pièces, mais c'est à peu près le cas dans toutes les pièces qu'on va visiter. Les murs sont remplis de livres. Quel est votre rapport à la lecture et à l'objet livre ? Vous avez besoin de les avoir comme ça ?
Ben d'abord, c'est ça mon travail. J'écris, je lis. Donc ma bibliothèque, c'est l'espace où je vis. C'est tellement intime. Du reste, c'est assez singulier de parler de sa bibliothèque parce que c'est peut-être ce qui est le plus intime puisque c'est ce qu'on a parcouru toute sa vie.
Là, on est dans votre bureau, précisément.
Oui.
Et effectivement, tout autour de vous, il n'y a que des livres de philosophie. On verra si c'est le cas dans les autres. Mais là, effectivement, il y a toute la collecte. Il y a Sénèque, Lucrèce, Épictète, Nietzsche. Comment c'est classé ?
Alors, c'est classé... chronologiquement, on commence par les présocratiques et puis Platon, Aristote qui fait une grande part. Et puis après, on continue avec Descartes, Kant, Rousseau, Hegel, Nietzsche,
Foucault, Sartre.
Voilà.
Ah, effectivement.
Ouais. Et après, Heidegger, autour de Heidegger sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et Wittgenstein. Et Heidegger et Wittgenstein sont un peu à part, puisqu'ils représentent une part un peu colossale de la bibliothèque.
Ça m'a toujours fasciné, ça, Platon, Socrate, etc. Comment on explique que ces philosophes antiques soient encore si modernes aujourd'hui ? Est-ce que c'est parce qu'on les entretient et qu'on les commente et qu'on les revivifie sans arrêt ? Ou est-ce qu'en eux-mêmes, ils sont encore tout à fait modernes et capables de penser nos vies ?
Moi, j'enseigne la méditation. Je suis complètement énervé, fatigué que la méditation soit tout de suite identifiée à l'idée d'être calme, d'être zen, etc. Et la semaine dernière, j'ouvre le Thé et Tête de Platon que j'ai pas lu depuis 20 ans. Je l'ouvre, je le lis. Et Socrate interroge un jeune homme, Thé et Tête, et lui demande qu'est-ce que la sagesse. Et Thé et Tête lui dit c'est être posé et calme. Et Socrate lui montre que c'est complètement ridicule et que ce qui compte dans la vie, c'est d'être engagé, d'être vivant et que lire en étant calme, c'est pas du tout lire. Apprendre en étant calme, c'est pas du tout vraiment apprendre et qu'il y a une énergie fondamentale. Mais c'est juste dingue que déjà Socrate dénonce ce côté complètement insupportable de l'idée de la sagesse, comme cette idée d'être calme, d'être zen. Et je crois que c'est ça. Les textes de Platon sont d'une drôlerie, d'une mise en scène, d'une profondeur. c'est absolument extraordinaire.
Vous vous rappelez le premier livre de philosophie que vous avez ouvert ?
Le premier livre qui m'a ébranlé, je crois que c'est La lettre sur l'humanisme de Martin Heidegger, que j'avais 19 ans.
Mais qu'est-ce qu'il dit en substance dans ce livre-là ?
Ah, c'est pas ce qu'il dit, parce que vous voyez, c'est le mouvement même de l'écriture, de la langue. Je sentais qu'il se jouait quelque chose qui me concernait au plus profond et que le mouvement était un mouvement au cœur de l'existence. Que là, il s'agissait de prendre le fait d'exister sur cette terre absolument au sérieux. Et j'ai trouvé ça commotionnant. Je trouvais ça très, 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 très parlant.
Il y a des vases sur notre chemin, là, à côté de la bibliothèque, sur tout un étage.
Oui.
D'où viennent-ils ? Vous avez une passion pour les vases ? Vous êtes collectionneur ?
Absolument.
Il y en a une dizaine ?
J'ai une passion pour des vases grecs.
Qui racontent des histoires, en général.
Qui racontent des histoires et qui témoignent du sens de la mythologie, et de la pensée grecque. Et là, sur ce mur-là, c'est toute l'histoire de la peinture. Avec donc j'ai beaucoup travaillé sur la peinture. J'ai écrit Comprendre l'art moderne. Et la particularité de la bibliothèque, c'est que l'accent est d'abord mis sur les textes des peintres eux-mêmes. Je trouve que souvent l'histoire de l'art est faite en mettant de côté les textes des peintres eux-mêmes. Au XXe siècle, les artistes ont écrit des textes absolument incroyables.
Des textes qui expliquent leur démarche.
Qui expliquent leur démarche, leur questionnement, leur manière. C'est un vrai travail de pensée, c'est absolument incroyable. Par exemple, le texte de Georges Braque, qui a écrit des sortes d'aphorismes, Le jour et la nuit.
Tout petit livre, très mignon.
C'est un tout petit livre, tout mignon, mais bon, après, il y a plein de versions. Là, c'est une version toute petite.
Vous voyez, il dit, y a des marque-pages.
La culture engendre la monstruosité. Puisque, disons, l'idée qu'il a, c'est la culture, c'est plus le rapport vivant à l'art, c'est le rapport culturel, et donc à quelque chose qui est perdu. Il faut se contenter de découvrir, mais se garder d'expliquer. Vous voyez, ça consonne énormément avec ce que je disais de Roustan ou l'expérience que j'ai faite en lisant Heidegger.
Avec l'âge, l'art et la vie ne font qu'un.
Il ne parle pas que de sa démarche. Il y a un engagement profond, existentiel. Et malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que les peintres, ils parleraient d'esthétique. Et puis les politiciens parleraient de politique. Mmh. Et les philosophes parleraient de philosophie. C'est profondément triste, parce que ce n'est pas du tout vrai. Un artiste comme Braque, il parle de la vie, de l'existence, du monde. Et à mon avis, on aurait grand intérêt à prendre plus au sérieux ce qu'ils disent, parce que d'un certain point de vue, eux, ils ont fait le pas que notre monde n'a pas fait. Au fond, notre monde vit vraiment quand j'écoute la plupart des débats politiques, j'ai l'impression qu'on est encore dans un moule du 19e siècle, avec des références du 19e siècle. Et quand je lis quelqu'un comme Braque, j'ai l'impression qu'on saute dans un monde qui est le nôtre.
Il est post-it.
Oui, parce que c'est...
Vous ne cornez pas les pages ? Vous refusez ça ?
Si, ça peut arriver. Après, je prends des notes.
Vous sacralisez pas l'objet livre.
L'art survole, la science donne des béquilles.
C'est beau, ouais.
C'est quand même...
Mais à la fois, il y a certains... On voit bien ce qu'il veut dire, et particulièrement pour l'art moderne, mais il y a certains tableaux, notamment Poussin, je pense au Berger d'Arcadie. On est content qu'on nous explique les symboles de ce qu'il a voulu figurer.
C'est une grande erreur. Il y a quelque temps, j'ai fait une séance à l'Opéra Bastille avec une violoniste. Elle joue du violon, je fais un petit exercice de méditation, et elle rejoue une sonate et partita de Bach. Et puis je demande après aux gens dans la salle s'ils voient une différence, s'ils entendent une différence. Et les gens n'entendent pas du tout la même chose, et ils sont complètement surpris. Et des fois, les gens disent « mais je déteste le violon ». Et là, pour la première fois, je ne sais pas comment vous avez fait, je l'ai entendu. Et je crois qu'on devrait commencer par mettre les gens dans un rapport de présence à l'œuvre avant de vouloir l'expliquer. C'est ce que disait Baudelaire. Vous pouvez vivre sans pain, vous ne pouvez pas vivre sans poésie. C'est insupportable pour beaucoup de gens, cette pensée-là. Mais elle est incroyablement profonde et vraie.
Justement, vous parlez de poésie. Là, il y a tout un secteur consacré à la poésie.
Oui.
Alors pour l'instant, je n'ai pas vu de roman. Hein.
Je crois qu'il n'y a pas de roman dans ma bibliothèque.
Comment c'est possible ?
Je ne lis pas de romans. Je ne comprends pas. Il y a des romans. Les romans que je lis, c'est ceux qui, pour moi, entrent dans la poésie. Par exemple, vous avez Kafka, qui est là-haut. Ouais, j'ai beaucoup de... Après, il y a...
Mais qu'est-ce qui vous rebute dans le roman ? Parce qu'on a parlé de philosophie, de peinture, de poésie. Tout est dans le roman.
je dirais que tout est dans la poésie. Je trouve que la poésie, c'est la poésie, on en tout de suite dans une écoute d'une parole qui nous touche et nous concerne. Après, c'est comme ça. Je veux pas faire de. C'est... On peut pas expliquer. Ça n'est pas par là que pour moi le monde s'ouvre. Je trouve que je sens mieux pour moi le risque d'une aventure dans la poésie que dans le roman. Mais enfin, il y a des exceptions parce que il y a Proust.
Oui, alors là, Kafka, oui, toute la collection.
Mais en même temps, on pourrait dire, mais on ne peut pas tout faire dans une existence humaine. Après, moi, ce que je suis toujours étonné, c'est à quel point le rapport à la poésie est tellement pauvre aujourd'hui, alors que c'est tellement exaltant.
Là, j'essaye d'embrasser la bibliothèque du regard, mais c'est vertigineux. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'œuvres de poésie.
Oui, alors avec cette particularité qu'il y a toute une partie qui est sur la poésie russe et toute une partie sur la poésie américaine. Qui est très, très, très représenté. Parce qu'il y a aussi une préconception française. C'est que quand on parle de poésie, on est enfermé dans la poésie française, ce qui me semble très dommage, très dommageable, parce que la poésie russe et la poésie américaine au XXe siècle ont été absolument, absolument extraordinaires. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir qu'en Russie, au XXe siècle, les gens connaissaient les poèmes par cœur. Des poètes n'étaient pas publiés, ils n'avaient pas le droit d'être publiés. Tous les Russes les connaissaient par cœur. C'était une parole populaire au sens le plus profond du terme. Et ça a été un peu la même chose aux États-Unis. Moi, j'ai eu la chance de connaître Allen Ginsberg,
ah oui,
qui avait un rapport profond à la méditation.
Le grand parrain de la Beat Generation.
Voilà. Donc, j'ai passé pas mal de temps avec lui parce qu'il était très engagé dans la méditation. Et au fond...
Attendez. Vous connaissiez personnellement Allen Ginsberg?
Oui.
Racontez-nous comment vous avez. C'est pas comme, on tombe pas comme ça sur Allen Ginsberg. C'est comme si vous me disiez, je connaissais très bien Victor Hugo.
Je découvre la méditation quand j'ai 20 ans. Je vais pratiquer à Paris, dans un petit centre. Il y a un type qui arrive, c'est Allen Ginsberg. Moi, je connaissais pas grand-chose, j'avais 23, 24 ans, j'ai pas entendu parler. Et il nous fait un cours de poésie. C'était juste absolument extraordinaire. Et il est venu plusieurs fois. Donc j'ai commencé à sympathiser avec lui, à lui parler. Et puis une fois, j'étais à New York et je l'appelais. Encore, il y avait des machines à pièces, je me souviens. Donc, j'appelle avec une machine à pièces, j'appelle, je lui dis, voilà. Il me dit, non, là, je ne peux plus vous voir, je suis trop fatigué, je suis en train de mourir. C'était assez... Donc, on s'était vu. Mais si, vous vous souvenez, on s'est vu à Paris, je pratique la méditation. Il dit, bon, d'accord, venez. Et on a passé une après-midi ensemble. Et c'était extraordinaire parce que j'avais encore l'idée naïve que la méditation, c'était d'être dans le moment présent. Et j'étais quand même très frappé parce que Allen Ginsberg était très marqué lui-même par le poète William Blake, qui a joué un rôle majeur, et de la dimension imaginaire, originaire, qui vient d'une autre parole. Et là, il m'a montré à quel point ma conception du présent était d'une naïveté complète. Il y a des discussions qui changent une vie. Et il est quelqu'un d'une générosité absolument incroyable.
Est-ce qu'il y a un poème de Allen Ginsberg qui vous habite particulièrement?
Le début de Hall.
H-O-W-L.
J'ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés, hystériques, nus, se traînant à l'aube dans les rues nègres à la recherche d'une furieuse piqûre, initiés à la tête d'ange, brûlant pour la liaison céleste ancienne avec la dynamo étoilée dans la mécanique nocturne. Que pauvreté et haillons, et œil creux et défoncé, restèrent debout en fumant dans l'obscurité surnaturelle des chambres bon marché, flottant par-dessus le sommet des villes en contemplant du jazz, qui ont mis à nu leur cerveau aux cieux sous le métro aérien et vu des anges d'islam titubants illuminés sur les toits des taudis. Ah, c'est juste, ouais, c'est, tout de suite, il y a une parole qui parle. C'est vraiment extraordinaire.
Bon, ben, je crois qu'il faut qu'on se laisse là parce que après Allen Ginsberg, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Merci beaucoup, Fabrice Midal.
Merci.
Merci pour cette visite. Europe 1. De retour en studio, merci à Olivier Duval pour la prise de son et merci à Fabrice Midal. Je rappelle le titre de son nouveau livre, Méditer, le bonheur d'être présent, c'est chez Philippe Ray. Restez là, les libraires de La Voix et Livre ont médité toute la semaine dernière pour vous proposer les meilleurs romans. Ils vont essayer de vous donner envie de les lire. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix et Livre.
Retour dans La Voix et Livre, il est l'heure de flâner un peu avec l'équipe des libraires. Aujourd'hui, Anne-Sophie Rouvelou de la nouvelle et très belle librairie L'Infini Comédie à Bourg-la-Reine et Thibaut Raden. Alors lui, c'est la librairie L'Écriture à Vaucresson, mais ça c'est une institution. Salut les libraires.
Salut.
On commence avec vous Anne-Sophie, qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce que vous nous avez ramené de votre nouvelle librairie?
Je vous ai ramené « New York sera toujours là » en janvier de Richard Price, qui est paru aux Presses de la Cité. C'est un roman d'apprentissage qui n'est pas comme les autres, écrit par quelqu'un de très spécial aussi. Est-ce que tu sais qui est Richard Price ?
Ah ouais, c'est magnifique. Et ouais. New York, je n'ai pas compris le titre, « New York sera encore là en janvier » ?«
Sera toujours là
toujours
en janvier ».
Toujours là en janvier, d'accord. Ouais.
Et en fait, donc ça tu dois le savoir déjà Nicolas, mais Richard Price, c'est l'auteur de Ville Noire, Ville Blanche, donc on le connaît pour ça. C'est aussi le scénariste de La Couleur de l'Argent, de Scorsese, rien que ça. Et aussi, c'est le co-créateur de la série The Wire. Donc vous voyez que c'est quand même pas n'importe qui. Ce roman qu'on a là, il a été écrit plutôt dans les années 80. Donc c'est un inédit en France. Et on fait la connaissance du jeune Peter Keller, qui, en fait, tout juste diplômé, apprend qu'il n'est pas reçu à l'université de Columbia. On est dans les années 70. Donc, comme il ne sait pas quoi faire, c'est un roman d'apprentissage, donc il va faire plein de petits boulots, il va être postier, il va travailler dans une centrale téléphonique, il va faire des canulars sans arrêt, ça va être à mourir de rire. Donc, c'est vraiment un roman d'apprentissage, et ce qui est très sympa aussi, c'est que bah voilà, Peter, il se cherche, c'est-à-dire qu'il va flirter aussi un petit peu avec la drogue, il va découvrir l'amour, mais il va avoir aussi toutes les déconvenues qui vont avec, il va manquer, se retrouver en prison aussi. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment aussi... vrai entre guillemets, parce que vous voyez quand même le parcours du monsieur, hein, de l'auteur, donc il sait faire des choses qui sont efficaces, qui touchent le lecteur. Et aussi, ce qui est sympa, c'est que ça se passe dans les années 70, donc on a eu une certaine idée aussi de cette Amérique-là, qui déjà avait des problèmes aussi avec les minorités, donc c'est très intéressant par rapport au background. Et voilà, c'est quelque chose où on rit beaucoup, on est ému, c'est quelque chose de vrai, et c'est un super roman d'apprentissage.
Et c'est qui le mentor, si c'est un roman d'apprentissage ? Il y a quelqu'un comme ça, comme dans La Couleur de l'Argent, qui lui apprend des trucs ?
Alors oui, sauf que je ne peux pas trop vous en dire, parce que en fait, on va dire que c'est l'ex de sa petite copine. Et le mentor, il est un petit peu dysfonctionnel, entre guillemets. C'est ça qui est très intéressant.
Ok, New York sera toujours là en janvier, de Richard Price. Merci beaucoup Anne-Sophie. À vous Thibaut Raden.
Alors moi, je vais vous présenter Mon siècle, ma jeunesse, de Anatolie Marienhoff, aux éditions Noir sur Blanc. Et comme je dis à mes clients, quand je leur parle de ce livre, je dis « vous ne le connaissez pas, c'est normal, parce qu'en fait, il est complètement inconnu. » C'était un poète russe, parce que lui aussi, il est inédit comme le Richard Price, mais il est mort il y a longtemps, ce gars-là. C'était un poète russe, en fait, des années folles, en Russie, qui était le frère d'armes et de mots de Sergueï Essénine, pour tous ceux qui le connaissent. Et ensemble, ils ont inventé un courant artistique et poétique. Et en fait, il se fait le témoin de cette époque, en racontant à travers ce bouquin sa vie. Donc son enfance, son adolescence et l'âge adulte. Et en fait, c'est absolument incroyable comme bouquin parce qu'il a une manière d'écrire et qui est magnifiquement traduit par Anne-Marie Tatsi-Botton, ou Botton, je ne sais pas comment on dit, qui est incroyable. Le gars, c'est un poète et là, il vous écrit un livre. C'est un poème de 300 pages. Le livre entier est à réciter, à lire à haute voix, à souligner. Enfin, c'est absolument fabuleux. Et on traverse 50 ans de l'histoire de la Russie à travers les yeux d'un homme qui, avec toutes les aventures, tous les trucs absolument terribles qu'il a vécu, comme les guerres, les guerres russes, les guerres mondiales. Et,
c'est une fresque, comme on
dit. C'est complètement une fresque, mais une fresque où plus j'en parle, plus j'ai les larmes aux yeux, parce que l'histoire est folle et le type est fou. Et, enfin, tout est absolument incroyable. Il y a des passages à l'intérieur où il dit de la poésie à des comédiens, parce qu'on parle beaucoup de théâtre, on parle beaucoup de Shakespeare, de Proust, et de plein d'autres de gens qui ont fait les mots aujourd'hui. Il y a des passages absolument incroyables où vous avez l'impression de taper du poing sur la table parce qu'il en faut toujours plus et plus et plus et plus. C'est hyper russe en soi, mais c'est fabuleux, quoi. C'est un des livres les plus fabuleux que j'ai jamais lu. Et voilà.
Ouais, le début est très intriguant. Là, je vous ai piqué votre exemplaire. Mes parents m'habillent de la façon la plus vexante qui soit. Je n'ai pas de pantalon comme il sied à un homme, mais de petites robes, des bleus et des roses. Mes cheveux descendent plus bas que mes épaules. J'ai 4 ans, quelque chose comme ça.
Voilà, et c'est typiquement le personnage. C'est que petit, il était habillé comme une fille. Il se faisait appeler la petite fille à l'école, mais ça ne l'a jamais démonté. Il a toujours prouvé que ce n'est pas parce qu'il était habillé comme une petite fille que c'en était une. Et en plus, ce n'est pas grave. Moi, je sais qui je suis et c'est comme ça qu'il est devenu Anatoli Marienhoff, un mec pas spécialement voulu être publié, mais qui aujourd'hui, grâce à la bibliothèque de Dimitri, la collection, on peut lire ce livre. Et c'est important de le lire parce que c'est extraordinaire, quoi.
Mon siècle, ma jeunesse, donc d'Anatoli Marienhoff aux éditions Noir sur Blanc. Merci Thibaut Raden et Anne-Sophie, on rappelle.
New York sera toujours là en janvier de Richard Price.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Direction le rayon jeunesse maintenant avec Victor Dolande. À tout de suite.
Il était une fois.
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 Dernier chapitre de La Voix est Livre. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour Nicolas.
Et à l'occasion du Salon du Livre Jeunesse à Montreuil, qui a ouvert mercredi et qui se tient encore jusqu'à demain soir, vous avez rencontré une star des livres pour enfants, l'auteur anglais Michael Morpurgo.
Oui, l'auteur de Cheval de guerre, porté à l'écran par Steven Spielberg, est à Montreuil cette année pour présenter Le Bonhomme de Neige. On lui a en fait demandé d'adapter cet immense classique de la littérature jeunesse, imaginé en 1973 par un autre auteur britannique, Raymond Briggs.
Alors, j'avoue, je ne connais pas Le Bonhomme de Neige.
Eh ben, je vais vous rappeler. Bien sûr, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans la campagne anglaise. Noël approche, il rêve de neige tous les jours, mais les flocons se font attendre. Il se désespère, mais la veille du 24 décembre, il se réveille très tôt et découvre un épais manteau blanc en ouvrant sa fenêtre. Il se rue à l'extérieur et se lance dans la construction d'un magnifique bonhomme de neige. Il y passe la journée, lui visse un vieux chapeau de son père sur la tête, une écharpe autour du cou. La nuit tombe, il est temps d'aller se coucher. Le petit garçon jette quand même un dernier regard à la fenêtre et là, le bonhomme de neige lui fait un signe. Non, non, il ne rêve pas, ce géant de neige est bien vivant. Comme tout le monde dort chez lui, bah, il n'hésite pas, il descend dans le jardin, commence alors une incroyable aventure qu'il mènera jusqu'au pôle Nord où vivent des centaines d'autres bonhommes de neige. Dans l'œuvre originale de Raymond Briggs, il n'y a que des illustrations, pas de texte. On peut le faire découvrir aux enfants à partir de 3-4 ans sans problème. Mais si justement Michael Morpurgo a accepté de l'adapter, c'est justement pour un public plus grand.
Si on peut écrire l'histoire pour les enfants un peu moins jeunes, peut-être il y a vraiment la place dans l'histoire pour l'enlargir. Voilà. Il y a un moment, je me dis, moi, il faut essayer, parce que c'est un honneur vraiment d'être demandé pour faire ce projet. Et voilà, j'ai commencé, et ça a arrivé très très facilement.
Paris réussi.
Il parle français en plus, il a tous les talents.
Ah, il a tous les talents, Michael Morpurgo. Paris réussi parce que cette adaptation, elle est juste sensible. Il a choisi de s'arrêter notamment sur la personnalité du petit garçon, de bien raconter aussi cette amitié avec le bonhomme de neige. Un merveilleux conte, cette fois à lire à partir de 7-8 ans.
Et on rappelle le titre, c'est facile, Le Bonhomme de Neige de Michael Morpurgo. C'est édité par Gallimard Jeunesse.
Et si vous souhaitez découvrir l'œuvre originale, celle de Raymond Briggs, elle est éditée chez Grasset Jeunesse et je vous conseille vivement les deux versions, Nicolas.
Merci beaucoup Victor, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation et à Xavier Joly pour sa programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À la semaine prochaine.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est Livre.